La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de la mêlée de l'info à quelques jours de Noël que je vous souhaite joyeux malgré une actualité nationale plutôt agitée et assez morose. Nous allons parler avec les deux invités de ce numéro. Je salue les débuts à la mêlée d'Alexandra Luliette, déléguée territoriale du Modem 31. Et je salue également un habitué de cette émission, Bruno Cyr, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'Université Toulouse-Capitole, production de l'émission à bâton rompu sur Radio Présence. Bienvenue à tous les deux et merci d'avoir accepté de débattre ensemble. Depuis vendredi dernier, François Bayrou est le nouveau Premier ministre de la France. Sa nomination avait été évoquée dès l'annonce de la démission de Michel Barnier. Et puis de favori pour Matignon, François Bayrou était devenu un candidat possible parmi d'autres. Emmanuel Macron l'a donc finalement choisi comme chef du gouvernement. Ce choix est-il le meilleur selon vous, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été fait et de la situation actuelle politique du pays? Et que pensez-vous des premiers jours de François Bayrou en tant que Premier ministre? Je donne la parole tout de suite à Alexandra Luliette qui doit avoir beaucoup de choses à nous dire sur ces deux questions.
Tout à fait. Bonsoir Éric, merci de m'avoir invité. Alors en toute objectivité, oui, je me réjouis de la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre. Mais pour moi, ça va au-delà du plaisir de voir cet homme que j'estime énormément et de sa pensée qui a profondément fondé la mienne. C'est surtout un message très fort au regard d'un projet que nous avons à monter et surtout un grand espoir de remettre de l'honorabilité dans le combat politique. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de juger les premiers jours, les petites controverses qui peuvent émerger, mais il faut réellement que nous nous interrogions sur cette nouvelle étape de notre démocratie. Vous parliez des crises, oui, elles sont profondes, elles sont... On en parlera tout à l'heure, des crises naturelles, des crises économiques, mais surtout une crise de société, une crise de nos institutions. Donc là, ce soir, ce que je voudrais, c'est avoir un débat qui va au-dessus de celui d'un homme, d'un gouvernement, mais plutôt le débat sur cette réflexion collective sur l'avenir de notre modèle républicain. Concernant les premiers jours, écoutez, là, on est vraiment sur le fondement de ce gouvernement, sur ses réflexions, sur ses consultations, sur une démarche qui va finalement bien au-delà des partis politiques pour choisir ensemble ce que nous voulons pour la France et comment faire sortir la France de cette situation complexe, inédite, dans laquelle elle se trouve.
Alors, on va passer la parole maintenant à Bruno Cyr. Vous, est-ce que vous vous êtes réjoui de la nomination de François Bayrou, compte tenu, je le répète, de la situation politique que traverse le pays, très incertaine? Et qu'est-ce que vous pensez de ses premiers pas en tant que Premier ministre?
Moi, mon premier réflexe, quand j'ai appris que c'était M. Bayrou, ça a été de me dire, on va vite regretter Michel Barnier. Parce que je pense qu'ils ne sont pas dans la même cour, sur le plan notamment du projet et de ce qu'il convient de faire pour essayer de mettre de l'ordre dans le pays. Alors, je m'explique pourquoi je pense que Bayrou, François Bayrou, qui est un homme estimable, mais n'a peut-être pas l'étoffe pour prendre cette situation compliquée dans laquelle nous sommes. D'abord parce que moi, je ne suis pas centriste, je suis démocrate. Et pour moi, c'est presque antinomique de s'imaginer qu'une démocratie ne fonctionne pas sur un principe d'alternance. Une démocratie, par définition, c'est de temps en temps les uns, de temps en temps les autres, sur des projets politiques et le peuple qui décide d'un projet ou d'un autre. Mais c'est vrai qu'il y a une tradition en France de quelques-uns qui ont voulu se situer au centre en se disant « on va prendre le meilleur à droite, le meilleur à gauche, et comme ça on sera sûr de rester au pouvoir. » Et on sera incontournable au pouvoir. C'est exactement le cas de Bayrou, mais il y en a eu d'autres avant lui. En se disant « on a quelques députés, mais on est incontournable, et donc on va naviguer un coup à droite, un coup à gauche, façon girouette. » Parce que pour moi, M. Bayrou, il est plus proche de la girouette que du vrai projet politique. Et le problème en faisant ça, c'est que quand ces gens du centre arrivent au pouvoir, comme il y a de toute façon une aspiration à l'alternance, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des mécontentements, il y a des incompréhensions, et les gens auront envie de changer de tête, de changer de génération, de changer de principe politique. Ce qui est une façon d'avancer en démocratie, un peu en zigzagant, mais quand on se retourne, ça a quand même permis de bien avancer dans toutes les démocraties qui respectent ces principes d'alternance. Or, là, où va se faire l'alternance une fois que le centre aura bien, parce que Macron est déjà au centre? Il s'est déjà fait élire sur un principe centriste.
Et avec le soutien de François Bayrou.
Avec le soutien de François Bayrou. Et où va se faire l'alternance? Bon, on le voit, où elle va se faire l'alternance? Elle va se faire aux extrêmes. D'ailleurs, ils repoussent les extrêmes. Ils sont en train, Bayrou lui-même, mais Macron avant lui, sont en train de dire, on ne veut pas discuter avec l'extrême gauche, on ne veut pas discuter avec l'extrême droite. Le problème, c'est que ça représente 40% des Français. Donc c'est un vrai problème antidémocratique. On ne peut pas dire « je veux rassembler tout le monde » et je commence par exclure 11 millions d'électeurs pour Marine Le Pen et 6 millions pour Mélenchon.
Ce serait même la moitié, hein, à peu près, de l'électorat.
À peu près la moitié. Donc ça, c'est vraiment pour moi, comment peut-on dire un truc pareil ? Je veux rassembler tout le monde et je commence par exclure la moitié à peu près, ou entre 40 et 50% des électeurs qui ne se sentent plus représentés. Donc, je pense que ça va être extrêmement difficile de pouvoir rester au pouvoir pour lui. Alors, ceci dit, il en a rêvé depuis longtemps, et je pense qu'il est prêt à toutes les compromissions pour pouvoir garder le pouvoir. Mais je pense qu'il va avoir une difficulté supplémentaire que n'avait peut-être pas complètement Barnier, c'est que dès le premier jour, il s'est mis à dos le président de la République. Et ça, de mon point de vue, ce n'est pas une bonne chose.
Alors, expliquez pourquoi il s'est mis à dos, le président de la République.
Il a tordu le bras, parce qu'en réalité, le matin, il y a le président qui lui téléphone pour lui dire, hein, c'est ce que toute la presse a raconté, pour lui dire, finalement, ce n'est pas vous, ça sera M. Lecornu. Et là, il demande à être reçu par le président. Mais pendant le moment où il demande à être reçu par le président, il y a une entrevue avec le président qui, au su de tout le monde, se passe mal. Il ressort persuadé qu'il ne sera pas appelé par le président comme Premier ministre, et il demande aux télévisions à passer le soir aux 20h pour dire qu'il n'est pas d'accord. Et là, je pense que Macron a cédé. C'est pour ça que je dis qu'on lui a tordu le bras.
François Bayrou l'aurait, je mets bien conditionnel, oui, menacé, entre guillemets.
Menacé de faire exploser.
De voter des motions de censure qui seraient présentées par le RN et LFI.
Voilà, donc de faire exploser le centre, hein, dont il est un rouage essentiel. Parce qu'effectivement, en se mettant au centre, vous êtes sur la pointe du compas, mais vous pouvez faire basculer le
même imaginer
d'un côté ou de l'autre.
Emmanuel Macron n'aurait pas été là en 2017 sans le soutien de François Bayrou.
Je finis ce que je disais. Le problème, c'est que en faisant ça, le président de la République, qui, de mon point de vue, n'aurait pas dû céder, parce qu'il fallait le prendre au mot, il ne l'aurait pas fait, je pense. Mais, bon, bref, le président Macron cède, ne nomme pas M. Lecornu, mais est extrêmement humilié, parce que ce que ne savait pas Macron au moment où il a cédé, c'est que tout le monde allait le savoir. Et dans les minutes qui ont suivi, comme il avait convoqué la presse, tout le monde l'a su. Donc là, imaginez-vous l'humiliation pour le président de la République. Et on a un attelage à la tête de l'État qui ne va pas pouvoir se supporter, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se supporter. Est-ce que c'est une bonne chose pour le pays? Encore une fois, je veux soi-disant rassembler tout le monde dans un nouveau projet, je commence à exclure la moitié des gens, et en plus je me fâche avec le président de la République. Donc moi je pense qu'il n'est pas dans la même cour que Barnier.
Donc pour revenir à la deuxième partie de ma question, concernant les premiers pas de François Bayrou à Matignon, vous êtes très critique aussi.
Le premier pas, c'est celui-là. Ensuite, je pense que c'était une erreur d'aller à Pau. Bon, il n'a pas mesuré le problème. Au lieu d'aller à Mayotte, je pense que là, il a pas bien vu le truc, ce qui est grave, parce que c'est un vieux briscard de la politique. Il aurait dû se dire, quand il y a un problème comme ça, bon, on arrête tout et on y va. En fait, il avait envie de se faire applaudir à Pau par sa vieille garde, et donc il est allé à Pau pour prendre un petit ballon d'oxygène et se gonfler un peu les plumes. Mais je pense que ça, c'est une vraie erreur, pas digne d'un homme d'État.
Bon, alors là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et j'imagine qu'Alexandra Leliette veut répondre à plusieurs points.
Non, mais je vous remercie. Si et sans surprise, je suis en désaccord complet avec la majorité des faits que vous avez pu mettre en avant. Je reviendrai déjà sur le principe de la girouette. S'il y a bien quelqu'un qui n'a jamais fait aucune compromission avec ses idées, avec ses valeurs, avec sa pensée, c'est bien François Bayrou. C'est un homme politique qui a été prêt à prendre tous les risques, de très nombreux risques, qu'il a souvent payé très cher. Je me souviens dès 2002, ce refus d'intégrer cette méga UMP voulu par Jacques Chirac, qui était selon lui la meilleure réponse au vote terrible que nous avions eu avec l'apparition de l'extrême droite pour la première fois au second tour. Quand je vois aussi sa décision en 2006 de sortir aussi de cet accord avec la droite, avec cette UDF qui était devenue un parti libre, je continuerai évidemment avec le MoDem, le choix de ne pas prendre parti à l'élection de second tour de 2007 et ensuite de prendre une décision éminemment courageuse, qu'il a payé extrêmement cher en 2012, en décidant non seulement de ne pas voter pour Nicolas Sarkozy, mais d'apporter son vote à François Hollande. Donc sur le côté de la girouette et celui qui se vend au plus haut offrant, excusez-moi d'être un petit
d'accord,
peu...
D'accord, mais alors je le jugerai à une chose sur la girouette, c'est qu'il a pris position contre la loi sur la fin de vie, et moi j'attends qu'il maintienne cette position. On verra si c'est une girouette ou pas. Moi, je vous prends le pari que c'est une des premières lois qu'il va faire passer.
Alors, je serais heureuse...
Là, ce jour-là,
on va pouvoir parler ensuite des grandes politiques qui
m'échangeront. Oui, parce que le reste, c'est de grenouillage
sur,
politique.
Oui, sur l'alternance, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de ce mot alternance, parce que vous parliez tout à l'heure de ce contrat d'alliance qui avait été passé entre François Bayrou et Emmanuel Macron, le candidat, en 2017. Souvenez-vous, ce contrat d'alliance était conditionné à 4 exigences. La première d'entre elles, c'était celle de l'alternance, ou une véritable alternance, mais celle des vrais changements de pratique, celle des orientations et celle d'une politique à faire autrement sans recycler ses pratiques antérieures. Donc oui, il fallait de l'alternance et ça, c'est quelque chose d'assez utile. Je reviendrai aussi sur le côté alors assez anecdotique. Moi personnellement, je n'étais pas dans les couloirs de Matignon et de l'Élysée sur les négociations vendredi dernier, donc je ne pourrais ni infirmer ni confirmer ce que vous avez
Le fait est que ça a beaucoup filtré dans les médias.
Ça a filtré.
Je l'ai pas inventé.
Écoutez, moi je n'ai pas eu de confirmation ni par les uns ni par les autres.
Oui, non, mais
en tout cas, moi sur le côté du désaccord que vous pourriez voir comme et regretter entre le président de la République et le Premier ministre, je trouve ça, honnêtement, ça ne m'étonne pas beaucoup, parce que c'est vrai que vous êtes plutôt attaché à un parti politique dont le dernier président considérait son Premier ministre comme son premier collaborateur. Excusez-moi, mais pour moi, ce n'est pas là le rôle d'un Premier ministre d'être le premier collaborateur du président de la République, surtout dans la période que nous vivons et après les votes exprimés par les Français, que ce soit au mois de juin lors du scrutin européen ou encore l'été dernier à l'issue de la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi François Bayrou est pour moi l'homme de la situation ? Vous parliez, oui, il refuse de discuter avec les extrêmes, il refuse de rassembler cette expression du peuple si majoritaire. Eh bien, c'est vraiment avoir mal compris la position de François Bayrou. Il l'a exprimé encore l'autre jour dans l'Assemblée nationale, son profond respect pour la représentation nationale, pour les élus de l'Assemblée, du Parlement, quel qu'il soit, de quel côté de l'hémicycle il soit, et ça il le respecte et il l'a toujours montré.
Alors pourquoi il les a pas invités?
Ah, ils ont été invités.
Non, aujourd'hui il a dit qu'il est consulté aujourd'hui.
Alors,
même
il y a eu plusieurs tours de consultation avec des méthodes différentes, c'est ça qui était intéressant. La première méthode justement qui passait au-delà des partis politiques, notamment en consultant les chefs des groupes au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat. Ensuite, il y a eu un deuxième tour, effectivement, avec les représentants des différents partis politiques, où il a pris les partis qui avaient déjà eu l'occasion de gouverner. Mais il y a eu des discussions fortes avec les différents courants. Et justement, je pense que pour travailler, il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir négocier, mais ce projet de gouvernement ne peut pas rassembler les extrêmes, puisqu'au contraire, il s'agit, comme on le disait plus tôt, de trouver un nouveau projet républicain. Et donc, ce projet républicain ne peut être fait qu'avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Nous sommes dans une émission qui comprendra tout à fait que je puisse m'opposer à des partis politiques dont la doctrine est celle du « nous exclusif », une doctrine qui va contre, justement, cette fraternité contre l'autre. Donc, je pense que, oui, il est très important de discuter avec les uns et les autres, mais ce projet de gouvernement ne pourra pas fonctionner, bien évidemment, avec les extrêmes.
Est-ce que je pourrais répondre ?
Oui, allez-y, intervenez, et après, je vous poserai une autre question à tous les deux.
Oui, le problème, si vous voulez, avec les gens qui se situent au centre, c'est que, par définition, ils n'ont pas de véritable projet, de mon point de vue. Moi, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que je ne sais pas précisément ce que veut faire M. Bayrou sur un tas de sujets. Et quand il demande, il dit « je vais gouverner avec tout le monde », on sait très bien que, par exemple, sur la question de la retraite, il y a les députés de gauche et écologistes sont absolument arc-boutés sur la question de revenir sur la retraite. À droite, c'est exactement l'inverse. Que veut faire M. Bayrou ? Il s'est bien gardé de le dire. Et quand il nous dit « je vais mettre tout le monde ensemble pour gouverner », je me demande comment il va pouvoir trouver sur ce sujet, mais sur bien d'autres, sur l'école, sur un tas de sujets, sur un tas de questions, sur le wokisme, etc. Il y a une vraie difficulté pour construire un programme. Du coup, moi, ce que je pense, très sincèrement, mais je ne veux pas trop accabler M. Bayrou, je crois que M. Bayrou, c'est un peu Janus pour moi. Il y a quand même longtemps que je regarde la politique et que je les vois naviguer les uns les autres. C'est un peu un Janus. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Bayrou des champs qui est très sympathique, le Bayrou de Pau, et qui se fait prendre en photo assez systématiquement dans le Paris Match ou dans le Figaro Magazine, avec un béret sur la tête, une canne, des chevaux derrière lui, l'un champ un peu vert, l'autre un peu labouré, lui plutôt dans le labour pour montrer qu'il est bien les pieds sur terre. Et puis il y a le Bayrou des villes qui passe l'essentiel de son temps à Paris et pas à Pau, tout le monde le sait, et qui est un homme extrêmement différent, qui là navigue, fait de la politique dans les couloirs, dit aux uns, dit aux autres, se place, et etc. Et grenouille dans ce qu'on appelle l'ancien monde de cette politique où tout le monde se connaît, où tout le monde discute. Bon. Et donc, ce que je vois là, de cet homme qui nous présente deux visages, très différents l'un de l'autre, eh bien, je le retrouve également dans son projet. Pour moi, Bayrou, il a un projet personnel. C'est un homme qui a voulu arriver au pouvoir et qui finalement a fini par tordre le bras au président de la République pour y arriver, parce qu'il y a longtemps qu'il en rêve. Mais un projet personnel, ça ne fait pas un projet de société. Ce n'est pas un homme qui, de mon point de vue, a une colonne vertébrale. Il n'a pas jamais dit « voilà moi comment je vois la société ».
Vous pensez qu'il n'a pas de conviction arrêtée ?
Non, il navigue au centre, il navigue un peu à droite, un peu à gauche, il est dans le sens du vent. Alors un coup je vote pour Sarko, le coup d'après je vote pour Hollande. Et puis les projets, on ne sait jamais où il en est. Et je vous dis, sur la loi sur la fin de vie, ça va être symptomatique. Il y a quelques années, il avait pris fortement position contre dans sa tradition catho. Et on va voir. Mais moi, je suis à peu près persuadé que c'est un des premiers trucs qu'il va lâcher. Sur la retraite, on va voir aussi. Il avait pris des positions assez tranchées aussi, mais on va voir maintenant qu'il est au gouvernement. Donc, moi, je suis très inquiet sur... Et je pense qu'on va arriver à une sorte de nini, qui est très, très, très franco-français. C'est-à-dire qu'à force de ménager les uns et les autres, ménager la chèvre et le chou, ben, il ne fera rien. Et je pense que c'est ça qui va se passer pour se maintenir au pouvoir, puisque son projet, c'est de conquérir le pouvoir, et il y est arrivé, ben, il ne fera rien. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne s'appellera pas. Donc, et je ne suis pas le seul à le craindre, tous les chefs d'entreprise le craignent, vous avez vu.
On a bien compris que vous étiez méfiant, voire défiant à l'égard de François Bayrou.
Très sceptique.
Qui doit...
Mais je ne demande qu'à être agréablement surpris.
Mais je pense que tout le monde le demande. En tout cas, François Bayrou, dans l'immédiat, il doit former un gouvernement. Alors pour vous, de quelle marge de manœuvre il dispose ? Est-ce qu'il peut intégrer, comme on nous l'a annoncé, des personnalités allant du Parti socialiste aux Républicains, en évitant de s'attirer les foudres du Rassemblement national, pour éviter une motion de censure rapide, comme celle qui a frappé Michel Barnier, Alexandra Leliette ? Vous pensez que c'est possible, ça ?
Oui, je pense que c'est possible. Vous parliez tout à l'heure du temps que ça prend. Oui, ça va prendre du temps, parce que justement, c'est quelque chose de très, très structurant. Comme je vous disais... L'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une réflexion collective. Il s'agit de l'avenir de notre modèle. Cet avenir, il se décide à plusieurs. Vous parliez de cette... Alors, je suis très, très curieuse de découvrir votre boule de cristal, mais dont l'avenir est un peu sombre et dont j'ai quand même quelques doutes sur les pronostics. Moi, j'attends de voir. En tout cas, je vois qu'il y a des réflexions, il y a des négociations, il y a un combat politique qui se passe avec les différents représentants, les différentes personnalités. Je m'en réjouis, c'est ça la démocratie, c'est pouvoir aussi confronter ces idées. Comme je vous le disais, quand on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien. Donc là, aujourd'hui, il y a des négociations, des discussions, des confrontations. Quel sera le programme de demain? Quel sera le grand discours de politique générale? Fort heureusement, il n'est pas encore écrit, puisqu'il s'agit de voir justement ce travail collectif et sur quel projet. Sur les retraites, je peux très bien vous parler de la position de François Bayrou et du Modem. Je peux très bien aller sur « Ah, mais nous, on aurait préféré une retraite à points ». Je peux très bien aussi regretter certaines choses, mais ça ne sera pas le programme qui sera appliqué demain, puisque le programme qui sera appliqué demain sera un programme véritablement d'union, un programme collectif qui sera capable de rassembler les différentes nuances. Et moi, j'ai quand même une profonde confiance dans nos personnalités politiques, y compris celles avec lesquelles je ne partage pas toutes les positions, sur leur capacité justement à dépasser leurs petits intérêts personnels, le bout de leur nez, parce que je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques et François Bayrou en fait partie, qui sont dignes de ce nom, sont ceux qui dépassent justement leur intérêt personnel et qui ont une vision véritablement pour l'intérêt général. Je reviendrai juste quand même un petit point sur ce passage de François Bayrou à Pau, sur ce duel, ce monstre à deux têtes que vous semblez...
Janus, son côté dueliste.
Voilà. Janus, c'est pas un monstre, il a deux têtes.
Voilà, mais alors déjà, je pense que sur la ville de Pau, je vous invite véritablement à y aller, c'est juste à côté, vous pourrez voir toute l'implication et la reconnaissance du travail du maire de Bayrou. Moi, c'est plutôt le président du parti que je connais. Et je pense que sur Pau, justement, on ne peut que se réjouir d'avoir un Premier ministre qui soit véritablement issu des territoires, qui a cœur justement la prise en compte de ces territoires contre le parisianisme.
Il a mis l'accent là-dessus.
Il a mis l'accent et c'est une considération qui n'est pas nouvelle. C'est quelque chose qu'il a en lui de longue date. Je pense que sa présence à Pau l'autre jour, ça illustre justement son attachement au territoire, le respect qu'il a pour les Français et les Palois qui ont voté pour lui. Et puis, une politique où les ancrages locaux sont importants. Et justement, moi, je suis un petit peu surprise que vous puissiez critiquer ça, parce qu'il me semble que vous avez toujours été justement très attachée au concept d'indépendance locale, justement, de pouvoir avoir une véritable vision et un système de pensée qui ne soit pas seulement celui dicté par Paris.
Je critique pas, je dis, il a deux visages. Et donc, c'est le nini, quoi. C'est-à-dire qu'il a un visage ras des villes et un visage ras des champs. Et c'est toute sa personnalité. Effectivement, moi je critique pas, c'est très bien d'être rat des champs, moi je me sens très proche des rats des champs, mais il est quand même l'essentiel de son temps à Paris et grenouille à Paris, qu'on le veuille ou non.
Alors, je pense que vraiment le temps se partage entre Paris, entre Pau, et son attachement au territoire est profond. Et nous, ici, nous sommes ce soir en train d'enregistrer cette émission à Toulouse.
Elle est même en direct. Hein.
Voilà, en direct. C'est une émission qui est entendue dans une bonne partie de l'Occitanie, plutôt des l'ancienne Midi-Pyrénées.
Tout à fait.
Et donc, d'avoir un Premier ministre à ce point attaché au Sud-Ouest, eh bien, moi, j'en suis plutôt contente et je pense que c'est quelque chose dont on peut se réjouir.
Bien sûr.
On nous entend jusqu'à Pau, je le précise.
Bien
je
sûr.
Je salue les Palois.
Mais moi, je ne suis ni sceptique ni naïf. Je ne suis pas naïf dans le sens où je ne pense pas possible, dans l'état actuel du paysage politique en France, dans les clivages qu'il y a, de dire on va réunir en cassant le nouveau front populaire, le NFP, et en faisant sortir les socialistes, on va réunir des socialistes au LR en mettant de côté les gens qui n'ont jamais gouverné jusqu'à maintenant parce qu'ils en sont
tout
pas capables.
Tout en évitant de s'attirer les foudres, voilà. Je le redis, Marine
Donc
Le Pen
ça,
du Rassemblement
Je pense
national.
Qu'il y a beaucoup de naïveté là-dedans. Et donc, ce n'est pas du scepticisme de dire « je n'y crois pas, c'est un mauvais projet ». En revanche, je reviens à ce que je disais au début. Il faudrait, je pense que depuis trop longtemps, c'est la gauche qui gouverne ce pays. Et quand ce n'est pas la gauche, il n'y a pas grand-chose qui change avec Giscard. D'ailleurs, Giscard était... Beaucoup de gens disaient qu'il était plus socialiste que les socialistes. Il n'a pas véritablement fait une politique de droite. On a besoin d'une politique plus libérale qui dégraisse. Sarkozy avait essayé de s'y attaquer un peu, mais ça a tourné court. Qui dégraisse l'administration, qui redonne de l'énergie, de l'initiative. Et ce projet peut se construire, à mon avis, entre le centre... la droite et le Rassemblement national, qui représente, je le rappelle, 11 millions d'électeurs. Donc là, si effectivement Bayrou se mettait dans la peau d'un homme capable de gouverner en tenant compte des voix du Rassemblement national, en tenant compte de LR, en tenant compte du centre, et en se disant de toute façon les autres, c'est pas leur projet, donc le coup, ils ont été au pouvoir, le coup d'après ils y reviendront sans doute, ou ils y reviendront un jour, mais maintenant on va faire une politique régalienne sur la sécurité, en traitant les problèmes d'immigration, en traitant les problèmes de santé, etc. Une vraie politique de droite gaullienne, d'inspiration gaullienne, en étant plus indépendant vis-à-vis de l'Europe aussi, une aspiration de beaucoup de Français, je pense qu'il, là, il aurait une chance de rester au pouvoir. Mais moi, je ne crois qu'en voulant mettre LR et les socialistes, il va se faire laminer au
alors,
premier.
Il
ne fera rien.
Oui, jusqu'alors.
Pour ne pas se faire laminer, il ne fera rien.
François Bayrou et Marine Le Pen ont plutôt entretenu de bons rapports. D'ailleurs, je rappelle qu'il lui avait porté sa signature pour qu'elle puisse se présenter
oui,
en 2022.
Mais alors, il ne mettra pas le Parti Socialiste alors, dans la barque.
Voilà, donc, bon, je dis ça en passant, donc on ne peut pas dire qu'il soit complètement clivé sur ce point-là. Alexandra Leliette.
Alors moi, je suis quand même assez surprise par, par certaines contradictions dans votre démonstration précédente. Vous parlez donc de l'importance de l'orthodoxie budgétaire, de l'importance de l'économie. Et dans le même temps, vous voulez travailler justement avec un parti politique qui souhaite abroger la réforme des retraites, qui a une position économique qui est tout sauf responsable, qui a une position sur le travail aussi qui n'est pas tout à fait encline et dans la ligne de votre démonstration. Donc, et puis sur cet exemple d'avoir un gouvernement, je me permets juste de finir sur cet exemple justement d'un gouvernement qui allait justement de la du centre à la droite, avec la possibilité de tomber sur la confiance du RN pour ne pas censurer, ben on a bien vu le résultat et moi je dis dont acte.
Oui, non, mais sauf que Michel Barnier a commis sans doute une erreur, de mon point de vue, c'est qu'il a voulu régler les problèmes structurels du déficit trop vite. Et donc, quand vous voulez combler un déficit budgétaire, la seule chose qui marche à court terme, c'est l'impôt. Parce que faire des réformes de structure en disant on va modifier les façons d'aborder le budget, on va réduire la taille d'un certain nombre de services publics, c'est des réformes structurelles qui ne peuvent se faire que sur la durée. Et donc quand à court terme vous voulez régler le problème, bah évidemment vous tombez sur l'impôt. Je pense qu'il a fait cette erreur et que donc il s'est fait censurer par la droite qui avait dit on ne veut pas d'augmentation d'impôt par la droite du Rassemblement national. Voilà, donc bon, mais ça ne veut pas dire que le projet était mauvais. Il a été censuré par Marine Le Pen, qui a montré qu'il est le grand vainqueur dans cette histoire, parce qu'elle a montré qu'elle avait un pouvoir de vie et de mort. Alors que si vous prenez le NFP, hein, France Insoumise inclus, Parti Socialiste et Écologiste, ils ne sont pas en mesure de renverser un gouvernement. Si le centre, la droite, en tenant compte d'un certain nombre de choses que veut le RN, il ne faut pas appliquer le programme du RN, évidemment, ni le programme du centre, il faut faire une synthèse dans tout ça, là, ça peut durer. Mais
moi, j'aime bien votre approche de l'algèbre. Et si on prend l'hémicycle de l'Assemblée dans tous les sens, il y a eu beaucoup de simulateurs de majorité. Ben, excusez-moi, mais il n'y a aucun des scénarios que vous avez présentés qui fonctionne et qui est pérenne.
Ah, si, c'est le RN qui, avec puis, 140 voix, ils ont
là,
le droit de vie et de mort sur tout.
Résoudre la crise économique justement par l'impôt, ben,
c'était une erreur.
Ben, oui, et donc c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça.
C'est pour ça qu'il a été.
Ce qu'on a besoin, c'est surtout d'avoir une France qui résiste donc à la crise, qui puisse mieux rémunérer le travail, parce que on a.
Mais La question, c'est comment. C'est pas il faut, il y a quand. Il n'y a qu'à, oui, ça tout le monde est capable de dire, il faut une France forte, il faut une France...
Bah écoutez, en tout cas, ce n'est pas dans le projet économique du Rassemblement national que j'en vois la sortie.
Non, dans le centre, oui, et dans la droite, oui. Sûrement ah bah, pas dans le côté
gauche.
Eh
bien, on n'a toujours pas la majorité.
Oui, mais le problème, c'est que là, qu'est-ce qu'il va aller chercher au Parti Socialiste ? La retraite à 60 ans, les 35 heures et compagnie ?
Alors, sur la retraite, j'ai l'impression qu'on a quand même des discussions qui sont assez intéressantes, qui sont en train d'émerger. Moi, je me félicite de voir certaines sorties de dirigeants socialistes par rapport à la retraite qui semblent avancer et comprendre que, de toute façon, on ne trouvera pas de solution en appelant uniquement à abroger la loi des retraites. Parce qu'en plus, ce n'est pas du tout quelque chose de responsable et qui est quand même beaucoup trop cruel pour les générations futures.
On ne changerait pas les socialistes depuis Mitterrand. Les socialistes ne savent faire qu'une chose, c'est mettre plus d'impôts. On est le pays qui a le plus d'impôts du monde. Et c'est quoi ? C'est 40 ans de socialisme quand même. Donc vous croyez que vous allez changer du jour au lendemain ?
Moi, je pense qu'on peut quand même vraiment trouver un équilibre entre solidarité et responsabilité. Oui, et j'ai quand même confiance dans les dirigeants politiques de notre pays. Je pense que nous avons des personnalités qui soient à droite et à gauche des gens raisonnables et qui savent voir la crise dans laquelle on se trouve et le besoin d'unité et de trouver un rassemblement, justement en confrontant nos idées et en ayant quand même quelque chose d'uni pour sortir la crise du pays.
D'autres
pays l'ont trouvé.
Le bateau coule.
Permettez, quels sont les dossiers les plus urgents à traiter pour François Bayrou dans l'immédiat ? Alors évidemment, il va falloir élaborer un budget, et rapidement.
Bah oui.
Mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y a la loi immigration ? Vous parliez de la réforme des retraites. Il y a l'éducation nationale aussi. Alexandra Leliette, c'est quoi les urgences pour vous ?
Alors oui, de toute façon, la première urgence sera celle du budget qu'il faudra faire adopter. Ça, on n'a pas véritablement le choix. Ensuite, il y aura également la reconstruction. On en parlera tout à l'heure de Mayotte. Mais vous avez également d'autres grands enjeux où là, on va pouvoir se retrouver. L'enjeu de la crise climatique, quelle que soit votre position sur les bancs de l'hémicycle, je pense qu'on est d'accord que c'est un véritable défi et une responsabilité à relever, voire pour, dans certains cas, ça peut même être transformé en opportunité. Mais j'aimerais pas être trop cynique parce que ça reste un sujet qui est beaucoup trop dramatique. Sur les grandes priorités, il y aura surtout celle de restaurer la confiance des Français dans la chose publique et la chose politique. On est quand même dans un système où là, aujourd'hui, on voit un désamour, une perte de confiance totale des Françaises et des Français par rapport à cette chose publique. Donc, il faut restaurer la confiance. Et cette restauration de la confiance, ça peut passer évidemment, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, par une loi sur la proportionnelle qui reste à discuter. Et puis, je vous parlais de ces fameuses exigences de François Bayrou en 2017. Il y avait celui de la moralisation de la vie publique. Alors, il y a eu une loi en 2017 qui a été passée. Je m'en félicite, mais qui ne va pas assez loin. Il va falloir aller plus loin et surtout changer de méthode. Parce que vous le voyez bien dans ce que vous me proposez, ça ne sort pas, il n'y a pas de solution qui sort, il n'y a rien qui émerge. Nous avons aujourd'hui une Assemblée, un Sénat qui sont paralysés et qui vont devoir apprendre à travailler autrement et surtout à être plus dignes de la confiance que les Françaises et les Français leur ont accordée en votant pour eux, parce qu'on a dans le même temps une Assemblée qui n'a jamais été aussi légitime au regard des taux de participation.
Bruno Cyr, les priorités pour vous ?
Bon, les priorités, évidemment, c'est de construire un budget qui permette d'assainir nos finances publiques. Je crois que
Une majorité à l'Assemblée.
Mais le problème, c'est que on a vu que Michel Barnier a voulu s'attaquer à ça en disant on va faire beaucoup de. On va rétablir et limiter l'endettement et rétablir, ou essayer de rétablir, de se mettre sur une trajectoire de rétablissement de l'équilibre budgétaire. On en est extrêmement loin, mais il faut se mettre sur la trajectoire. On a vu le résultat, il s'est fait remercier. Donc là, le budget, on a reconduit le budget de l'année dernière, ce qui ne va qu'accroître les déficits. Et donc, je pense qu'à la marge, M. Bayrou, il n'a pas grand... il ne va pas avoir grande manœuvre, si vous voulez, parce que y a une urgence absolue. Et donc, on a reconduit un budget. Il va à la marge bricoler trois trucs pour dire qu'il fait quelque chose. Mais je n'attends pas de ce budget. Là où on pourra le juger, c'est sur la construction du budget 2026. Parce que 2025, malheureusement, cette dissolution a complètement gramé les cartes. Et Michel Barnier travaillé, le Parlement avait travaillé pour essayer de construire dans l'urgence, au mois de septembre et octobre, un budget. Ça a capoté, on est revenu à la case départ. Et maintenant, on a reconduit le budget 2024 sur 2025. Il ne va pas changer grand-chose. Donc moi, j'attends plutôt qu'il fasse en 2025 des réformes structurelles sur le régalien. On a besoin de traiter des problèmes, et c'est pas en faisant des grands mots en disant « il faut que tout le monde se mette ensemble, il faut reprendre confiance ». Quand on a dit ça, pour moi, on n'a rien dit, c'est de la fumée. La vérité, c'est qu'il y a des sujets précis qui sont la sécurité, qui sont la
santé,
l'immigration. L'immigration est un vrai sujet et il faut avoir le courage d'aborder cette question.
C'est pour ça que j'évoquais la loi immigration.
On parlera de Mayotte sans doute tout à l'heure. Ben, on voit bien les dangers d'une immigration non contrôlée, ce que ça donne. La santé, l'école. L'école, c'est un vrai budget. C'est une vraie question. Hein. Aujourd'hui, il y a une dérive dans le système éducatif qui est dramatique. Il y a une fuite vers l'enseignement privé de plus en plus de gens qui demandent. Alors l'État essaye de limiter les places, d'empêcher qu'il y ait des classes qui se créent, etc. Parce que sinon, ça serait complètement une hémorragie. C'est un vrai problème qu'il faut traiter. Est-ce qu'il aura la capacité de le faire? Il a été ministre de l'Éducation nationale. On voit le résultat aujourd'hui. Hein. Il a rien changé. Moi, j'étais à ce moment-là. Je dirigeais un labo CNRS. C'est un homme ambitieux, il avait voulu réunir l'enseignement supérieur et l'éducation nationale. Donc je t'ai amené à le côtoyer. Il n'a rien fait en réalité. Il n'a rien fait, il faut bien le dire. Et si le système est aussi dégradé aujourd'hui, il fait partie des responsables. Donc je doute qu'il fasse grand-chose.
C'est marrant parce que vous sembliez attaché justement à ce que disaient les journaux et justement sur le bilan de François Bayrou à la tête de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on redit enfin que jamais tant n'a été fait que lorsqu'il était donc à sa tête. Il a fait quand même conduit de nombreuses réformes. Il a montré qu'il avait une véritable capacité aussi à discuter avec les organisations syndicales, trouver une solution pérenne et à assumer ces discussions. Sur cet intérêt pour l'éducation nationale, je pense que vraiment c'est un point sur lequel la preuve n'est plus à faire. Sur les autres sujets structurants, mais j'ai envie de dire oui, un grand oui sur justement. Je vous apporterai avec grand plaisir le programme de campagne de François Bayrou de 2007 et de 2012 qui avait fait justement du sujet de la crise sa priorité. D'ailleurs, c'est peut-être des points qui lui ont coûté, parce qu'il expliquait que la situation était compliquée, qu'on était déjà au dernier trou de la ceinture et qu'il allait falloir en faire un nouveau si on voulait survivre. Eh bien, ce n'est pas ça qui est passé, et on voit la situation dans laquelle on est. Donc vraiment, cette restructuration de notre budget et de nos politiques.
Vous m'avez dit vous-même qu'il allait réunir tout le monde pour discuter sur un programme, donc il ne va pas nous ressortir le programme de 2012.
Vous parliez de ses positions.
Donc parole, on va tous réunir.
Attendez, je voudrais vous interroger sur un point qu'a soulevé Alexandra Leliette. Réforme possible du scrutin proportionnel. François Bayrou en parle depuis 30 ans. Et vous savez que le RN, Marine Le Pen, attendent ça, que le PS aussi ne serait pas contre, ça lui permettrait de s'émanciper de la France insoumise dans le bloc Nouveau Front Populaire. Vous, Bruno Cyr, proportionnelle, vous...
Il y a une étude très intéressante qui vient de sortir de la Fondation Jean Jaurès, qui est clairement une fondation à gauche, qui vient de sortir, là, je crois que c'est sorti hier ou aujourd'hui, et qui montre que si on avait eu un scrutin à la proportionnelle aux dernières législatives, on aurait exactement le même résultat que maintenant, c'est-à-dire trois blocs et une assemblée ingouvernable. Donc croire que la proportionnelle va résoudre tous les problèmes, je pense que non, elle va contribuer à bloquer davantage le pays. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a trois ensembles à l'Assemblée nationale, et on voit bien qu'on retombe dans les travers de la 4e ou de la 3e République.
Oui, un bloc central et puis...
On va se retrouver avec des gouvernements qui vont passer à la queue leu-leu.
Vous semblez oublier quelque chose, c'est que lors des derniers scrutins, il n'y avait pas de proportionnel. Donc, on ne vote pas, enfin, les Français ont voté selon les règles qui existaient. Si une proportionnelle est instaurée, le résultat ne serait pas qu'arithmétique. On est dans un débat public, on a une autre façon de se projeter.
La Fondation Jean Jaurès dit, on serait arrivé, je ne vous dis pas que ce serait exactement les mêmes personnes, on serait arrivé au même résultat, c'est-à-dire la constitution
trois
votes.
Et
c'est ça la proportionnelle, c'est que vous avez un éclatement, vous n'avez plus de majorité.
Après, il y a la question de la dose aussi proportionnelle.
On a, alors déjà la question de la dose, donc ça doit être discuté. Il y a beaucoup de modèles qui doivent être discutés. Sur du modèle, vous parliez de la position du RN. Il y avait aussi la position de François Mitterrand. Au sein même du MoDem, il y a des discussions avec différentes hypothèses. Et Jean-Louis Bourlange a lui-même pu développer et présenter des propositions qui sont les siennes. Mais ça va plus loin. Il faut vraiment qu'on ait cette réflexion, parce que l'objectif, c'est surtout qu'on ait une représentation nationale soit digne de cette appellation et que chaque Français se sente représenté, qu'elle puisse représenter l'ensemble des sensibilités et surtout que nous ayons des élus qui soient conscients de cette nouvelle façon de travailler. On nous dit souvent, mais pourquoi veux-tu qu'on puisse fonctionner sur des compromis et autres, puisque regarde, aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Ben, c'est normal, parce que les dés étaient différents au début. Il faut vraiment travailler avec des règles qui sont différentes et ça joue sur le scrutin. Aujourd'hui, on a des parlementaires aussi qui se sentent bloqués. Vous parliez du NFP, bloqués par le NFP, par cet accord de juillet. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est particulièrement structurant, parce que les parlementaires, les députés, les élus sont quand même, je pense, assez cohérents avec leur position et savent selon quelles règles ils ont été élus. Et ce sont ces règles qu'il faudra changer.
On va en rester là, si vous permettez, là, pour ce premier débat. Parce
juste
que sinon,
un mot quand même, Eric.
Très vite, s'il vous plaît.
Je pense que la proportionnelle, j'ai été convaincu par cette étude de la Fondation Jean Jaurès, la proportionnelle ne va rien régler. En revanche, ce que je vois, c'est exactement comme la réforme des régions. On va passer beaucoup de temps à s'occuper de politique, et pendant ce temps, on ne traitera pas les problèmes des Français. Vous croyez que les Français sont vraiment très attachés à cette question-là? Je pense que les Français, leur problème, c'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité, c'est le fait que quand on travaille, on puisse se payer un logement sans être obligé de vivre dans une caravane ou dans une voiture. C'est ça le problème des Français. Bon, et là, on va faire de la politique. Voilà. Ouais.
François Bayrou doit maintenant former un gouvernement. On devrait sans doute en connaître la composition assez rapidement. Enfin, en tout cas, j'espère. Et puis, il va prononcer son discours de politique générale le 14 janvier, soit donc un mois après sa nomination, ce que beaucoup trouvent très tardif. Mais enfin, c'est comme ça. Petite pause musicale maintenant. Rendez-vous dans une vingtaine de secondes pour reprendre nos échanges. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne et je suis toujours en compagnie d'Alexandra Leliette et Bruno Cyr. L'autre sujet, malheureusement au cœur de l'actualité nationale, c'est le cyclone Chido qui a ravagé l'île de Mayotte, territoire déjà soumis à de graves difficultés en termes de pauvreté et de délinquance, confronté à l'afflux de migrants en provenance des Comores. Alors même si le décompte s'annonce très compliqué, on redoute des centaines, voire des milliers de morts et une grosse crise humanitaire à venir. Que peut et doit faire l'État français pour venir en aide à nos compatriotes sur place? Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron et de François Bayrou pour gérer au mieux les conséquences de cette catastrophe et essayer d'y faire face le mieux possible, encore une fois? Bruno Cyr.
Ben les Comores, c'est malheureusement, c'est une erreur un peu congénitale de notre système d'organisation politique. On a voulu, les Comores, pardon, Mayotte fait partie de l'archipel des Comores.
Avant, c'était une seule et même
donc Mayotte, c'est un problème qui est en grande partie lié au fait que c'est un département. Et je crois que ça a été une erreur de classer Mayotte comme un département et de s'imaginer qu'on allait pouvoir vivre de la même façon, avec les mêmes modes d'organisation, à l'autre bout de la terre, avec un contexte qui est extrêmement différent à tout point de vue, et dans la métropole. Donc il ne fallait pas faire ça. Mais une fois que c'est fait, ça donne ce qui se passe, c'est-à-dire qu'effectivement, là-bas, plus rien ne marche. Plus rien ne marche parce qu'on n'est pas capable de contrôler l'immigration. On a une immigration qui ne cesse de se renforcer et qui ne vient pas que des Comores, qui vient aussi d'une partie de l'Afrique. Et cette immigration se trouve en conflit ouvert, d'abord dans une situation d'extrême précarité, dans des bidonvilles, et en conflit ouvert avec les Maorés, les gens qui sont originaires de Mayotte. Et non seulement il y a ce conflit où les gens ne comprennent pas cet afflux qui finalement contribue à développer l'insécurité, le chômage, etc.
Et puis la pauvreté, bien sûr.
Et la pauvreté. Mais en plus, il y a un problème religieux. C'est-à-dire que ce que l'on ne sait pas, c'est qu'effectivement, à Mayotte, il y a une population musulmane très importante et les gens qui arrivent sont des musulmans radicaux. Or, entre les musulmans qui sont installés et qui sont relativement modérés et les radicaux qui arrivent inspirés par le courant islamiste, il y a une lutte qui s'ouvre. Donc, c'est un problème qui est très difficile à régler. Alors, pour répondre concrètement à votre question, je pense qu'il faudrait revoir le statut politique de Mayotte, redonner, faire un peu à la Corse, quoi, donner une assemblée là, fonctionner peut-être par des référendums au début, et puis écouter ce que veulent les gens qui habitent là, parce qu'on ne peut pas leur appliquer les solutions franco-françaises des départements français. C'est ça le problème. Et je pense que tout le monde est en train de le réaliser. J'espère que le président Macron, qui arrive sur place et qui visiblement veut faire quelque chose, va proposer cette solution, un statut un peu à la Corse ou quelque chose comme ça, où il y aura une assemblée locale qui pourra prendre des décisions et dire comment ils veulent contrôler notamment ces questions d'immigration.
Alors, je vais rappeler des chiffres là. Mayotte comptait moins de 50 000 habitants en 1980. Il y en a 310 000 aujourd'hui sur un territoire minuscule. Hein, c'est 374 km². C'est-à-dire qu'il y a presque autant d'habitants qu'en Corse, vous l'évoquiez à l'instant, sur un espace qui est 25 fois plus petit. Alexandra Leliette.
Alors, excusez-moi, j'ai dû très mal comprendre votre question initiale parce qu'il me semblait qu'elle portait plutôt sur Mayotte aujourd'hui,
est-ce
à quelques jours après cette terrible
Absolument.
Catastrophe naturelle, le cyclone Chido, qui a fait de très nombreuses victimes. Et d'ailleurs, je voudrais envoyer mes pensées sincères pour les familles, les proches de ces victimes, pour toutes ces personnes qui aujourd'hui se retrouvent souvent sans toit ou alors avec un toit précaire, qui ont faim, qui ont des problèmes d'eau potable
et qui ont perdu
des membres de leur famille et qui ont eu terriblement peur. Je pense que cette peur de la mort face à la catastrophe naturelle, c'est pas simplement...
C'est inimaginable quand on l'a pas vécu, je pense.
Voilà, ouais. C'est pas simplement celle des livres et c'est pas ce qu'on peut imaginer. Donc vraiment mes pensées pour ces victimes. Ensuite, me féliciter d'avoir vu l'état décrété rapidement cet état de calamité naturelle exceptionnelle qui va permettre d'accélérer les mesures d'urgence et de faciliter les démarches administratives, me féliciter de l'envoi de plusieurs tonnes d'aide alimentaire et sanitaire et la mobilisation des secouristes. Un mot particulier pour toute l'action qui a été aussi conduite par la ministre Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'accès aux soins.
Députée
des Landes, tout à fait, qui dès les premières heures après le passage du cyclone a activé tous les leviers nécessaires pour assurer une réponse humanitaire rapide et efficace. Et donc, je pense que l'essentiel de notre travail à court terme est surtout d'essayer de réparer les terribles dégâts de ce cyclone. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond avec Mayotte ? Bien évidemment. Est-ce qu'il y a un problème d'émigration avec Mayotte ? Bien évidemment, on avait eu des mouvements sociaux il y a quelques mois. Il y a eu aussi l'expression de vote lors des derniers scrutins qui était relativement clair. Donc je pense que cette réflexion sur l'immigration pour l'île de Mayotte nous devons l'avoir, mais nous devons l'avoir en responsabilité et en ayant à cœur aussi une certaine vision de l'humanisme.
Alors, pour revenir à ce que disait Bruno Cirque,
ne me faites pas le procès de ne pas être humaniste, hein, je vous en prie, parce que si je vous donne mon CV...
Il semble que ce soit surtout dans les bidonvilles qui accueillent
les migrants. Je parlais de la réforme qui devrait être conduite avec l'humanisme.
Évidemment qu'à court terme, moi j'avais compris la question politique, puisqu'on discutait de politique, évidemment qu'à court terme, l'urgence c'est d'aider les gens, et la France sait se mobiliser pour ça. Il y a une vraie solidarité en France. Donc ça existe et on va y mettre les moyens, l'État y mettra les moyens, quel qu'il soit, au gouvernement. Je fais confiance à nos concitoyens pour venir en aide le plus humainement possible. Vous avez me traité pour un monstre. Je vous rappelle que je suis vice-président d'une ONG qui s'occupe de précarité et qui a 500 salariés et qui aide à peu près 11 000 personnes par an. Donc je vous remercie de ne pas me donner de leçons. Je vous invite à venir m'aider. Au contraire, parce que je suis sur le terrain sans doute plus souvent que vous. Bon, donc ça valait le son, mais en revanche, si on parle de politique, on ne peut pas reprendre, quand on voit ces bidonvilles, la perte de vue, qui ont été rasées par ce cyclone, c'est sûr qu'il y a longtemps qu'on aurait dû empêcher que ces bidonvilles prospèrent. Et pourquoi on n'y est pas arrivé? Parce qu'on n'est pas capable de contrôler les flux migratoires dans cette île. Et c'est ça qu'il faut changer, c'est ce que je dis, pour éviter le malheur.
Est-ce que la France s'occupe bien de ces territoires d'outre-mer, et notamment de ce département qui est Mayotte? Parce que ça a été aussi pointé du doigt. Est-ce que la France n'a pas failli dans la gestion de tous ces territoires qui se trouvent très loin de la métropole ?
Non, je pense qu'il y a un véritable enjeu des territoires d'outre-mer. Je tiens quand même à rappeler que mes propos n'étaient absolument pas une attaque. Donc, parce que je crois que quand on est dans une situation aussi dramatique, il serait particulièrement mal avisé de commencer à faire de la petite politique politicienne. Je salue votre engagement sur le terrain. Le mien est également tout à fait honorable et on n'a pas de compétition à avoir, mais simplement à se serrer les coudes face à une catastrophe qui est une catastrophe naturelle, pas catastrophe humaine. Il n'y a pas de responsable à trouver. Sur la question de la gestion des outre-mer, oui, elle est compliquée. Elle est compliquée à Mayotte. On l'a vu également dans les Antilles avec des grands mouvements sociaux. Oui, nous sommes sur des territoires compliqués. Et je pense que nous devons continuer à prendre en compte ces territoires comme véritablement des opportunités et comme des territoires qui doivent avoir toute notre importance. J'ai très longtemps travaillé à Bruxelles au sein des institutions européennes et c'est vrai que cette question de l'outre-mer était pour nous Français sur tous les côtés des bancs du Parlement européen quelque chose de fondamental. Il y a un article dans les traités qui sont consacrés justement aux dispositions propres et aux spécificités des territoires d'outre-mer et je pense qu'il faut continuer vraiment à œuvrer et se féliciter parce que grâce à nos territoires d'outre-mer, nous avons des positions stratégiques majeures d'un point de vue géopolitique. Au niveau de nos ZEE, nous avons aussi accès à une biodiversité qui est formidable. On parlait tout à l'heure de la recherche, c'est également une chance. Donc oui, nous devons faire plus, nous devons faire mieux, mais surtout en prenant en compte ces spécificités qui sont propres et bien différentes du territoire métropolitain.
Donc il faut garder Mayotte, parce que c'est une question aussi qu'on peut se poser. C'est un territoire qu'il faut garder.
La France ne peut pas abandonner une partie de son territoire.
Vous savez que certains posent la question.
Oui, non, mais c'est une question légitime parce que il est légitime. On pourrait voir ça comme une sorte de colonie. Donc, c'est vrai qu'on est dans un mouvement décolonial dans le monde entier. C'est une question légitime. Ceci étant, je pense que ça ne serait pas un service à leur rendre parce que c'est vrai que la France, pour eux, c'est aussi un moyen d'accéder à un certain nombre de services et de moyens financiers. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les Comores, qui sont un archipel indépendant et qui entourent Mayotte, eh bien, il y a une extrême pauvreté, bien pire qu'à Mayotte, qui fait que justement, les gens viennent là parce que là, ils se disent, il y a quand même un certain nombre de services publics qui fonctionnent et on va essayer d'en profiter. Donc, ça serait un mauvais service à leur rendre que de les abandonner dans leur coin, mais encore une fois, il faut le faire intelligemment et tenir compte de la vie des gens qui habitent là et qui sont français là. Et donc, c'est le statut de ce département qu'il faut peut-être voir sans parler nécessairement d'indépendance. Je signale en plus que sur le plan stratégique, ils occupent une position stratégique pour la France, et donc il faut quand même y réfléchir aussi à deux fois. Une bonne partie de l'avenir va se jouer quand même dans le Pacifique, tout le monde le sait, hein, c'est l'émergence de la Chine et demain sans doute de l'Inde va faire que ça se décentre, c'est plus l'Atlantique qui devient le centre de névralgique stratégique, c'est le Pacifique, et donc nous on a quelques points d'ancrage dans le Pacifique. Bon, si on veut garder un rôle stratégique dans la stratégie mondiale, je pense que c'est important. À présent, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Ça, c'est une autre question.
Il faut résoudre absolument le problème migratoire tout de même, Alexandra Leliette. On ne peut pas laisser les choses en l'état aujourd'hui.
Le problème migratoire à Mayotte, est un véritable sujet. Les habitants de Mayotte le revendiquent et le demandent. Alors moi, je suis toujours un petit peu gênée parce que pour moi, la République est une et indivisible. Et donc, il y avait eu ces discussions il y a quelques mois. Et j'ai toujours de grandes difficultés à voir des grands principes de la République appliqués différemment sur notre territoire, tout en étant tout à fait consciente qu'il y a une spécificité à Mayotte. Donc, cette réflexion, on doit l'avoir.
La Corse, alors je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas avec Mayotte, qui est à l'autre bout de la planète.
Il y a une petite différence, mais... Non, mais on doit le faire. On parlait tout à l'heure d'humanisme, et encore une fois, n'y voyez pas une attaque, mais pour moi, cet humanisme est important dans l'approche de... parce que justement, ce sont avant tout des personnes... Ce n'était pas pour la plupart des victimes des Français, mais c'était souvent des migrants, des illégaux qui étaient dans ces fameux bidonvilles. Et franchement, nous ne pouvons pas laisser s'installer des personnes en situation illégale qui, en plus, derrière, ont risqué leur vie. Donc, on a un travail à faire par rapport au respect des frontières. On a également un travail à faire dans notre politique d'aide au développement par rapport à ce territoire tierce qui est celui des Comores. Et sur la question des migrations et de la réflexion plus profonde, je pense qu'elle doit se faire de toute façon sous un prisme européen, parce que seul au niveau européen, nous pourrons mieux gérer nos frontières.
Bon, on va souhaiter que le secours, en tout cas, s'organise rapidement, en grand nombre, pour venir en aide aux habitants de Mayotte. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'en avoir été les invités. Bravo Alexandra Leliette, qui a fait de brillants débuts énergiques dans cette émission. Merci aussi à Corline Camebrac, qui a assuré la technique de ce numéro. Podcast disponible dès maintenant sur le site de Radio Présence. Joyeux Noël à tous. À bientôt.